Week-end de commémoration et de recueillement en France après l'armistice, on marque ce week-end un an après les attentats du 13 novembre dernier. Et en Australie, on se réjouit d'un accord de transfert de migrants avec les États-Unis, mais le président Trump va-t-il honorer un accord passé par l'administration Obama ? Et aussi, une première et tout un symbole, une Somalienne musulmane élue au Parlement américain de Donald Trump. La cérémonie pour l'armistice a eu lieu hier matin sur les Champs-Élysées et l'événement était présidé par le chef de l'État lui-même, François Hollande. Mais contrairement aux années précédentes, il n'y avait pas grand monde pour commémorer cette cérémonie qui a marqué et qui marque toujours la fin en 1918 de la Première Guerre mondiale. Reportage donc aux Champs-Élysées d'Alice Posicki pour RFI.
Quelques minutes avant l'arrivée de François Hollande, les Champs-Élysées paraissent bien vides. Emmitouflée dans sa doudoune, Christine est venue pour rendre hommage aux morts pour la France, mais elle attend surtout l'arrivée du président de la République.
Je serai un petit peu nostalgique parce que bon, j'aimais bien ce président et...
Vous parlez déjà au passé ?
Oui, je parle déjà au passé parce que je ne pense pas qu'il sera réélu, mais remarquez, les sondages peuvent se tromper, on a vu ce que ça a donné aux États-Unis.
La garde républicaine arrive, les pas des chevaux résonnent et impressionnent Joséphine, une lycéenne de 17 ans.
Elle est passée là ? Ah, je l'ai même pas vue.
Joséphine n'a pas vu François Hollande rester dans sa voiture, mais elle assure que l'important n'est pas là.
C'est surtout pour profiter du défilé, voir des personnes réunies pour la même raison, pouvoir commémorer un jour important.
C'est quoi ce jour ?
Oh non, mais là je peux pas moi.
Heureusement, sa copine de classe lui souffle la bonne réponse.
L'armistice.
Vous savez quoi de cet armistice ?
Ah, je sais plus moi, c'est merci, fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Ah, moi j'ai oublié. Je sais juste que c'est important comme jour.
Un jour important qui n'aura pourtant pas mobilisé grand monde. À la fin de la cérémonie, il n'aura suffi que de quelques minutes pour que les spectateurs quittent les Champs-Élysées.
C'était Alice Posicki pour RFI. Et en Grande-Bretagne, on a également honoré la mémoire des combattants de la Grande Guerre. Et les cérémonies se sont déroulées au mémorial des forces armées britanniques à Staffordshire. Et elles étaient dirigées par le prince Harry. On l'écoute dans un extrait d'un poème qu'il a récité à cette occasion.
If I should die, think only this of me. That there's some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam.
Et on retourne en France avec l'armistice, donc la commémoration de l'armistice. Ce week-end marque également le premier anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Et à cette occasion, une minute de silence a été observée en marge du match qui opposait hier la France à la Suède. Et le chef d'État a encore pris la parole. Il a rappelé aux milliers de spectateurs que les attentats visaient également un match de football. On l'écoute.
Il y a un an, presque jour pour jour, nous étions là, dans ce stade, avec un match de football amical, France-Allemagne. Et puis, il y a eu trois bombes qui ont été éclatées, avec un mort, M. Manuel Diaz. Et puis, j'apprenais, en montant un peu plus haut et en me renseignant sur ce qui se produisait, qu'il y avait d'autres attaques en plein Paris. Il faut se souvenir, 130 morts, des centaines de blessés. Alors d'abord pour leur mémoire, mais aussi pour tous ceux qui ont survécu et pour lesquels nous devons faire cet acte de souvenir, mais aussi d'encouragement, de soutien, de solidarité. Et si nous sommes forts, s'il y a de la cohésion, alors nous vaincrons le terrorisme. Nous nous y préparons depuis déjà de longues années, nous luttons contre lui, la menace est toujours là, mais nous serons surtout plus forts, la France, entre nous et dans le monde.
Et on reste toujours en France où ce week-end d'hommage des recueillements pour les victimes des attentats se poursuit et on parle ce week-end de la réouverture du Bataclan. C'est d'ailleurs ce samedi, bien la boîte mythique où les attentats du 13 novembre avaient fait le plus des victimes ouvrira ses portes et on a les détails de cette réouverture annoncée avec Carmen Linsman pour RFI.
C'est une star britannique qui va illuminer le Bataclan le soir de sa réouverture. Le chanteur Sting n'a pas hésité à répondre à l'appel lorsque la commission de sécurité de la préfecture de police à Paris a enfin donné son accord il y a seulement une semaine. L'artiste 65 ans connaît les lieux pour y avoir joué avec son ancien groupe Police en 1979. Entre-temps, la salle a été refaite à neuf, mais en même temps à l'identique, à quelques détails près, avec un hall d'entrée plus lumineux et un panneau en lettres rouges dansantes. C'est pour célébrer la musique et la vie que Sting a accepté cet engagement bénévolement. Les recettes des 1000 billets vendus dans un temps record d'une demi-heure seront versées à deux associations. Les 500 autres places sont prévues pour les invités, essentiellement les familles des victimes, quelques rescapés et une poignée d'officiels. La musique d'abord, les commémorations après. Tel était également le vœu des fondateurs du Bataclan. Sur sa devanture, une plaque sera posée le lendemain du concert, jour anniversaire du drame, tandis que la salle, elle, restera fermée.
C'est un reportage de Carmen Linsman pour RFI. Et après deux mois de négociations, l'Australie et les États-Unis sont sur le point de signer un accord qui permettrait de réinstaller aux États-Unis des centaines de migrants actuellement détenus dans des camps à Nauru et Manus Island. Les travaillistes se disent favorables à cet accord. On écoute d'ailleurs Shane Newman, porte-parole de l'opposition en matière d'immigration. Il a déclaré à la ABC que cet accord marquerait un pas en avant dans la problématique des demandeurs d'asile qui arrivent en Australie par voie maritime.
In taking refugees, no country takes more than the United States, and it's a place where people can find employment, education, health and housing. As prolonged resettlement arrangements were put in place, proper supports for these people, Labor would welcome the United States as a place where people could go.
S'il y a un accord donc des deux côtés des divisions politiques en Australie, par contre, ce qui va se passer aux États-Unis n'est pas tout à fait certain. Cet accord de transfert enlèverait en effet une épine du pied des autorités australiennes, que ce soit du Labour ou des libéraux. Par contre, il n'est pas certain que le président Donald Trump va honorer cet accord négocié par l'administration Obama. Et c'est tout un symbole, une première aux États-Unis, presque une contradiction dans un pays qui a élu Donald Trump. Eh bien, une musulmane d'origine somalienne a remporté un siège de parlementaire. Ilhan Omar, ancienne réfugiée de Somalie, a été élue au Minnesota, un état où l'intégration de nombreux réfugiés somaliens a constitué un enjeu électoral. La victoire de cette femme de 33 ans qui porte le hijab intervient après la campagne électorale particulièrement virulente envers musulmans et réfugiés menée par le candidat républicain Donald Trump, président élu. Et Ilhan Omar doit faire son entrée au Parlement américain le 3 janvier prochain. Et on va sur le continent africain cette fois-ci avec une nouvelle brève. Bien, RDC, une délégation de 15 représentants des pays membres du Conseil de sécurité est attendue ce samedi à Kinshasa et elle va rester en RDC jusqu'au 14 novembre. L'objectif de cette visite de 3 jours dans la capitale est à Beni, une ville qui se trouve dans le nord-est du pays, c'est de décrisper le climat politique qui s'est tendu ces dernières semaines à l'approche de la fin du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Un petit détour au Moyen-Orient cette fois-ci, où en Irak, la résistance de l'État islamique à l'offensive lancée sur Mossoul, bien cette résistance se fait beaucoup plus forte que prévu. Et une semaine après avoir percé les lignes de défense du groupe État islamique à la périphérie sud-est de Mossoul, un colonel de l'armée irakienne estime que l'opération tourne au cauchemar. Et un coup d'œil météo pour ce samedi, Perth 30 degrés, Adélaïde 20 degrés, Melbourne 24 degrés, Hobart 16 degrés, Canberra 26 degrés, Wollongong 28 degrés, Sydney 30 degrés, Newcastle 29 degrés, Brisbane 30 degrés, Cairns 34 degrés et Darwin, 34 degrés. Et sur les marchés financiers ce samedi, un dollar australien vous achète 75 centimes de dollars US et 69 centimes d'euros. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. Week-end de commémoration et des recueillements en France après l'armistice, on marque un an après les attentats du 13 novembre dernier. Et en Australie, on se réjouit d'un accord de transfert de migrants avec les États-Unis, mais le président Trump va-t-il honorer un accord passé par l'administration Obama ? Et aussi, une première et un symbole, une Somalienne musulmane élue au Parlement américain de Donald Trump. Bien, on fait une courte pause avant de passer au magazine sportif de ce week-end, de ce samedi plutôt.